Cinéma Donald, bienvenue à tous. Voici un nouveau numéro de Celtarmoric, l'actualité, la culture celtique apparentée, dépoussiérée. C'est maintenant. Présentation, préparation, réalisation, interview, production. Stéphane Coyote Blaise Pratt pour votre radio avec Corrigan Productions. Et dans cette période curieuse de notre vie, gardez la frite, gardez le moral et écoutez de la bonne musique. Cette émission est consacrée au talentueux et créatif de jazz celtique Roland Baker. Mais avant de l'écouter en interview, on l'écoute en musique avec Taschen Glaz de l'album Imrama de 2010, album primé par Produit en Bretagne en 2011. Taschen Glaz, ça signifie terrain bleu. Voici Roland Baker dans Celtarmoric. Thank you. C'était Roland Baker et c'était Taschenglas. Cela signifie terrain bleu. Vous savez que le bleu et le vert associés, c'est, on dit le bleu en breton, mais en vérité, c'est la couleur un peu de la mer. On peut considérer le musicien alrien Roland Baker comme un artiste créatif et atypique. Une grande carrière pour ce sonneur de bombarde, au bois populaire de Bretagne, qui joue également du saxophone et du piano. Compositeur, arrangeur et chercheur, il a sorti 12 albums depuis ses débuts, et le dernier intitulé « Musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle », d'après le manuscrit de Joseph Mahé et l'œuvre d'Olivier Perrin. Cette création a mobilisé 60 musiciens pour 7 ans de travail. Si on revient sur l'histoire de Roland Baker, il est l'arrière-petit-fils d'un chef d'orchestre allemand. Il a dirigé la Kevrenalrée et a entre autres collaboré avec Alan Stivell. Roland Baker, un personnage à part dans la musique bretonne et celtique, il nous raconte tout d'abord son histoire musicale.
Oui, ça fait 50 ans que je souffle dans une bombarde. Ça fait 50 ans cette année. Donc du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, il faut marquer le coup. Donc il y a eu c'est un peu le hasard du calendrier aussi. En fait, il y a eu un bouquin sur les Sœurs Guadec, on va en parler, j'espère.
On va revenir sur un deuxième sujet tout à l'heure.
Et puis sur l'album qui vient aussi de sortir, début octobre, ça fait pas un mois en fait, que tout ça est sorti. Alors comment c'est venu tout ça? C'est un peu le hasard. C'est souvent parce qu'on a le copain qui joue déjà un peu, qui fait un peu de musique. J'avais 11 ans et demi et moi j'habitais à Auray. Donc j'étais passionné par tout ce qui était antiquité, vieux machin, les vieux livres. Déjà à l'époque, quand j'avais 10-11 ans, ça m'intéressait beaucoup. Avant d'avoir 11 ans, je voulais faire antiquaire. Moi, c'était une passion que j'avais. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est rare qu'un gamin... toujours est-il que... Je mène à bien ma première passion avec ma deuxième passion. Finalement, j'en suis à revenir dans le passé, etc., sans arrêt, pour faire néanmoins des choses modernes. Je vais au plus loin, au plus profond de mes racines, pour justement aller vers une modernité, la plus avancée. Là, je crois, je ne suis pas passéiste, il ne me semble pas. Je ne suis pas conservateur, je ne suis pas traditionnaliste, au contraire. J'aime bien les choses nouvelles, mais j'ai besoin du passé. Ouais.
On dit souvent qu'il n'a pas de passé, il n'a pas d'avenir.
Je crois que c'est ça. Ouais. Moi, en musique, je pense que ce soit en jazz ou dans n'importe quelle musique, il faut bien connaître l'histoire de tout ça pour pouvoir poursuivre ce qu'on croit comprendre.
Tu mélanges différents styles, le jazz, la musique celtique, entre autres.
La musique celtique, c'est la bombarde. J'ai commencé par la bombarde, j'avais 11 ans et demi. Donc. Puis très vite, mes parents, voyant que ça marchait pas trop mal, on m'a offert des cours de saxophone. Alors, le saxophone, si j'avais appris à jouer du violoncelle ou du violon, j'aurais peut-être été plus vers la musique classique, la musique baroque. Le saxophone, naturellement, ça m'a amené vers le jazz. Évidemment, le saxophone, c'est pas l'instrument du jazz, mais c'est quand même l'un des instruments rois, on va dire, du jazz. C'est pas le seul. Il y a la trompette, il y a le piano, il y a la batterie, il y a la guitare. Mais le saxophone fait partie des instruments principaux, on va dire. Donc, très vite, quand j'ai eu suffisamment de technique instrumentale et être capable de jouer correctement, j'avais 17, 18, 20 ans, je me suis intéressé au jazz. J'ai pris des cours avec des grands musiciens, Michel Portal, Jean-Louis Chotan, des gens qui touchent leur vie dans le domaine. En même temps, je n'ai pas la prétention d'être un jazzman. Ça m'intéresse, mais dire qu'on est jazzman, non. Je n'ai pas cette...
Tu joues que du saxo et de la bombarde?
Je joue du piano, mais j'en ai jamais joué sur scène parce que c'est quand même pas très bon, non. Non, mais je bricole, Ça me permet de composer, de chercher l'harmonie, de fouiller des mélodies. On a un truc en tête, on est à se balader sur la plage ou aller aux champignons, il y a un moment, il y a une mélodie qui vient naturellement dans la tête, qui tourne en boucle. Et puis, au piano, on va retrouver l'air, d'une part, mais aussi on va inventer l'harmonie, l'accompagnement. Puis ça va aider ensuite pour l'écriture des autres partitions d'instruments, la contrebasse, les cordes, les autres cuivres, etc.
Alors, si je ne me trompe pas, tu as dirigé un bagad à Auray, c'est ça?
Alors moi, j'ai commencé, j'avais 11 ans et demi. Et puis quand j'ai eu 16, 17 ans, par là, j'ai commencé à diriger le bagad d'Auray, tout simplement parce que j'étais déjà bien dans la musique écrite, parce que j'avais appris au conservatoire. Conservatoire de Vannes, puis ensuite au conservatoire de Rennes, là où j'ai eu le prix du conservatoire, le prix, comme on dit. Tout ça m'a amené, à diriger le bagad d'Auray. Et j'ai voulu très vite voler de mes propres ailes, c'est-à-dire qu'à 23 ans, j'en ai 62, donc ça fait déjà quelques années, j'ai fait un premier album à 23 ans, puis un deuxième quelques années plus tard. Ça y est, c'était parti, J'avais envie d'inventer quelque chose. Mais ça a été une sacrée histoire pour moi et pour le premier producteur, parce que quand on m'a dit « Ouais, on aimerait bien te produire un disque », c'est beaucoup d'honneur quand même qu'on dise ça, qu'on se fasse proposer la production d'un album, ça coûte cher. Il y a des jours de studio, il faut payer des musiciens, il y a des cotisations sociales, etc. Tout ça coûte très cher, la pochette du disque, la distribution. Et moi, j'ai joué au grand malin, quoi. À l'époque, j'ai dit non, moi, je ne vais pas faire de disque. Je ne suis pas encore assez fort. Et le gars, il a insisté, quoi. Alors, finalement, j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui en disant, bon, d'accord, à ce moment-là, je vais jusqu'au bout de mon projet. Je ne ferai que des musiques composées. Je voudrais jouer que des choses de ma composition. Alors, le gars, il a rechigné. Puis, finalement, il m'a dit oui. Ben, j'ai été enfant gâté, très gâté. Parce que depuis longtemps, il aurait pu me dire, écoute, t'es un petit prétentieux... 23 ans, au revoir. Finalement, et il m'a fait confiance. Moi, je lui fais confiance en étant très, très exigeant. De fil en aiguille, ben, mon premier disque, c'était que de la musique composée. Et bon, ben, finalement, j'en suis assez fier. Bon, ça, c'était en 1982. Ça a un peu vieilli. Le disque s'appelait Falaen. C'était un 33 tours. C'est sûr que ça a vieilli. Bon, depuis, j'ai appris. Mais je suis quand même assez content d'avoir été jusqu'au bout d'un projet comme celui-là.
C'était Roland Baker et Régis Huiban, Plancher ciré. C'est l'album Coff à Coff, qui signifie ventre contre ventre, sorti en 2002. Seconde partie de l'interview de Roland Baker dans Celte Armorique.
Tu as collaboré avec de nombreux musiciens, dont entre autres Régis Huiban, hein, très longtemps.
Mais oui, à la même période, j'ai même collaboré aussi avec Alan Stivell, dans les grandes heures d'Alan Stivell, la symphonie celtique. Et puis bien longtemps après, ça c'était en 2000, pratiquement, 1999-2000, j'ai fait un disque avec Régis Huiban. On a fait un disque qui s'appelait Coff à Coff.
Coff à Coff, traduction du breton, ventre contre ventre.
Exactement, un disque d'accordéon et de saxophone, où là aussi on jouait des choses composées, mais aussi des compos. Ouais. C'est important de composer quand on est musicien. Moi je pense que quand on est artiste, bien, pas bien, peu importe. Il faut essayer de s'inventer un univers. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui se basent trop par rapport à leurs idoles, et non, il faut se laisser aller, il faut inventer, il faut chercher. On ne sera jamais les meilleurs des meilleurs de toute façon, donc autant avoir sa petite personnalité. Et puis, moi, j'ai continué à avoir cette idée-là depuis le début. C'est mon 2e album cette année. Et je continue à aller, à poursuivre cette idée d'inventer des univers. Alors, après, je ne suis pas connu sur toute la planète, sans doute pas, je ne pense pas.
Tu as été primé par Produit en Bretagne également. Il y a eu une création également, avec une création d'Anne de Bretagne également. Hein.
Oui, j'ai été primé par deux fois. Il y a eu deux disques qui ont eu le grand prix Produit en Bretagne. C'est justement Coff à Coff, là, avec Régis Huiban. Et plus tard, en 2012, le disque Imrama, le dernier disque qui est sorti, en fait. Et donc, 7 ans après, je reviens avec un nouvel album. Ça a tardé parce qu'entre-temps, j'ai fait un spectacle qui avait pour titre Anne de Bretagne. On a une commande de la région Bretagne pour célébrer la mort d'Anne de Bretagne. Donc ça m'a demandé beaucoup de boulot. Et finalement, il n'y avait pas assez de budget pour faire un disque, donc on a fait déjà le spectacle, ce qui était très bien. Et moi, je pense qu'on peut faire des spectacles sans disque et des disques sans spectacle. C'est-à-dire que la musique qu'on présente dans un album, par exemple cet album-ci, celui qui sort là, il y a 60 musiciens. Et bien évidemment, je ne ferai jamais cette musique-là sur scène. Parce que c'est trop coûteux, évidemment. Évidemment, c'est trop compliqué aussi, sans parler que ça soit coûteux.
Comment est née cette aventure, justement ?
De ce disque, en fait, je suis parti sur le manuscrit de Mahé. Mahé, c'était un homme de la fin du XVIIIe siècle. Il est né en 1760, pas loin de Vannes. Il est né dans le golfe du Morbihan, à l'île d'Ar. Et puis c'est devenu l'érudit du Morbihan. C'était quelqu'un de très considéré. Il a noté, il a collecté, il a cherché des airs en fait populaires. Déjà à l'époque, ça l'intéressait. Et donc on se retrouve avec 285 airs notés par ce Joseph Mahé dans le Pays de Vannes. 285 airs de musique paysanne. Il est le premier collecteur breton de musique paysanne. Et j'ai mis dans cet album, j'ai mis en parallèle l'œuvre d'Olivier Perrin qui lui en fait est le premier peintre breton à avoir peint, dessiné, gravé aussi, puisqu'il était graveur, la vie des paysans. Donc on se retrouve à Vannes avec Joseph Mahé, à Quimper avec Olivier Perrin. Et ce qui est très marrant, c'est que Mahé est né en 1760 et Olivier Perrin, lui, il est né en 1761. Du coup, on a deux personnages de la même période, de la même époque, deux contemporains en fait. Mahé avait 40 ans en 1800 et Olivier Perrin avait 39 ans. Donc deux personnages qui ont bien vécu la fin du XVIIIe siècle, la fin de cet autre temps, l'ancien régime, comme on dit. Et ça m'intéressait de recréer l'univers. Qu'est-ce qu'a pu entendre Mahé ? Et avec les peintures de Perrin, on voit mieux ce qu'il a pu entendre. C'est-à-dire que si on observe les peintures, les gravures de Perrin, on situe vraiment ce que Mahé a vécu dans le pays de Vannes et par là. Quoi.
Est-ce que les deux personnages se connaissaient ? Non ?
Non, ils ne se connaissaient pas, d'après ce que j'en sais. D'après ce que j'en sais. Mais justement, moi, je l'ai fait se rencontrer. Alors c'est un peu de la fiction, parce que en fait, ils ont fait tous les deux la même chose. Un avec le pinceau, l'autre avec la plume, à collecter en fait le répertoire chanté et joué par des instruments de musique de l'époque. Donc en fait, l'idée, c'était de se dire, bon, on a l'image de Perrin, on a les partitions, les 285 airs notés par Mahé, mais la question c'est, Mahé, il les a entendus où ces airs là, de musique populaire ? Certainement pas au Grand Théâtre à Lorient ou au Théâtre Anne de Bretagne à Vannes, c'est évident. Il les a entendus sur le port de Vannes, à l'île d'Ar, il allait souvent puisqu'il avait sa famille là-bas, dans des fêtes sur le champ de foire, là, il devait avoir des fêtes à l'époque à Vannes, sous les halles de Questembert, sous les halles du Faouët. Il y avait une fête devant un moulin, il y avait le moulin. Alors donc j'ai enregistré un moulin à eau, j'ai enregistré un moulin à vent, j'ai enregistré des enfants qui jouent dans la campagne, qui chantent dans la campagne, j'ai enregistré des rivières, j'ai enregistré du vent, le golfe du Morbihan, les oiseaux du golfe du Morbihan. Je me suis retrouvé avec plein d'enregistrements. Comme quand on prépare des sons d'ambiance pour un film, je me suis retrouvé avec 64 heures de prise de son de toutes sortes de trucs. Et après, il fallait faire un synopsis, comme dans le cinéma, un scénario, et pour enregistrer les musiques dans des contextes de nature, de fêtes, de paysages. Par exemple, dans le premier morceau, on est sur un bateau et à un moment, on coule. Eh ben, il fallait enregistrer cette impression-là de mer, et puis tout d'un coup, le bateau qui coulait, etc. Donc tout ça, c'est de la musique, mais c'est aussi des univers poétiques, on peut le dire comme ça, au travers du collectage de Mahé et des dessins d'Olivier Perrin.
Dans le Morbihan, même les goélands écoutent Radio Corrigan.
C'était Lugarnus, toujours tiré de l'album de Roland Becker, musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle. On l'écoute en troisième partie d'interview dans Celta Armorique. Ça a été 7 ans de travail avec différents artistes.
Oui, alors moi ce qui m'a beaucoup plu, plus que plu, amusé aussi, c'est que j'ai travaillé avec des gens, en fait, 60 personnes, donc musiciens, chanteurs, comédiens aussi d'ailleurs. Et sur les 60 personnes, il y en avait 47 qui avaient moins de 35 ans. Donc des gens qui avaient, on va dire, l'âge de mes enfants, quoi. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je pense pas que j'aurais pu travailler avec des gens de mon âge. Là, en fait, il y a une fraîcheur, il y a une envie, il y a une énergie aussi, il y a la patate, comme on dit, l'énergie, la banane. Et ça, c'est important. Et travailler avec des jeunes, c'est vraiment très, 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 très important pour moi. J'ai toujours travaillé avec des jeunes, j'ai toujours travaillé avec des gens plus jeunes que moi. Et j'y tiens, je garde ça précieusement, en fait. Le joyau de tout ça, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que je travaille avec des musiques du XVIIIe siècle, avec des gens, pour certains d'ailleurs, qui étaient nés, qui sont pas nés au XXe siècle, qui sont nés des gens qui ont 19 ans, qui sont nés au XXIe siècle. Donc là, on pousse le bouchon, là, en fait.
L'amalgame s'est fait facilement avec ces jeunes musiciens ?
Oui, parce qu'il y a une relation de confiance. Moi, je leur fais confiance parce qu'ils ont, encore une fois, du talent et de l'énergie. Puis moi, ils me font confiance, je crois. S'ils m'ont dit oui, c'est qu'ils sont contents de travailler avec moi parce que j'ai de l'expérience. Ça y est, je suis vieux, cher ami. Je suis né en 57, j'ai 62 ans. Et donc, ça fait 50 ans que je soude dans une bombarde. On va dire 48 ans que je soude dans un saxophone. J'ai fait plusieurs disques, j'ai fait de nombreux spectacles. J'ai roulé ma bosse un peu quand même, quoi, en France et un petit peu à l'étranger. Et en Bretagne, bien sûr. Et tout ça m'amène à avoir une expérience, quoi. Et puis, il y a aussi ce qui plaît aussi à ces jeunes-là, c'est qu'ils me font confiance parce que je bosse, parce que je suis un bosseur. Et donc, c'est pas du flan qu'on travaille. Comme disait Charles Aznavour, le talent, c'est 99% de sueur. Et je crois que c'est ça, en fait. On bosse. Alors, les gens nous disent « Ouais, bravo, c'est génial. Merci beaucoup. » Mais bon, nous ne sommes que des artisans. Moi, je suis fils d'artisan. Et toi, comme moi, on continue à faire des choses assez bien. On n'a aucun mérite, on aime ça. Et on fait des trucs assez bien pour ne pas dire « bien ». Pourquoi ? Parce qu'on est content de le faire. On est content d'être là. Voilà, je crois que moi, fils d'artisan, je dis ça tous les jours, quoi. On se lève le matin. Moi, le matin, je prends mon café. Je suis content de me mettre au boulot pour mes futurs projets. Je suis déjà, alors que je suis en promotion pour le disque et le livre qui viennent de sortir, je suis déjà à penser à des choses pour les prochains rendez-vous, cher ami.
Revenons à cette musique. Alors, c'est la musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle. C'est quoi quoi on peut classer ça ? C'est la musique un peu médiévale ?
Justement, ça, c'est une excellente question, parce qu'en fait, le pourquoi du comment, le but de tout ça, c'est d'essayer de mettre le doigt sur quelque chose qu'on connaît mal. Quand on parle de la musique bretonne, nous, gens du XXe siècle, on pense à nos grands-mères, on va dire nos arrière-grands-mères, la coiffe, le costume en velours noir, les bignoux, l'accordéon, si quelquefois dans les noces. En fait, on pense à une musique qui a été bien implantée lors de la Troisième République, ou la Quatrième République, plutôt la Troisième. La Troisième République, c'est à partir de 1870. Donc oui, c'est nos arrière-grand-mères, quoi. 1900, par là, quoi. Là, en fait, on remonte, et on dépasse même au milieu du 19e siècle. Il y a eu un événement important pour la musique bretonne, la culture bretonne, c'est le Barzaz-Braise, 1839. Mais on y va encore plus loin, là, on remonte encore, et on passe par-dessus même 1800 pour arriver au 18e siècle. Et on se retrouve avec Mahé, né en 1760, Olivier Perrin, né en 1861. Et en effet, la question est très, très bonne. On est dans une musique qu'on pourrait appeler musique ancienne, presque médiévale. C'est le chaînon manquant qui nous manquait, justement, qui est finalement très proche des musiques dites baroques, renaissance, médiévale. Et quand on lit les partitions notées par Mahé, les 285 airs, on retrouve les danses qu'on connaît encore aujourd'hui, qu'on appelle la ridée, qu'on appelle undro. Lui, il ne donnait pas de nom à ces danses. Il appelait ça des bretonnes, Mahé. Toutes ces danses, il les a appelées des bretonnes. Mais en fait, on retrouve les airs, on retrouve peut-être pas les airs, mais les structures d'air qui rappellent finalement nos danses qu'on connaît encore aujourd'hui, quoi. Que nous, on appelle la ridée. Undro, ça, c'est des mots qu'on connaît a priori, depuis 1880, par là, c'est des noms qu'on ne connaissait pas avant, a priori. En même temps, undro, ça veut dire le tour, la ronde. Donc c'est la ronde, quoi, comme partout on disait la ronde, quand je dis partout, dans toute l'Europe. Et oui, en effet, on est proche de la musique médiévale. Oui, tout à fait. Donc c'était intéressant d'essayer d'aller jusqu'à là, pour essayer de mettre le doigt sur une autre musique qu'on connaît moins, de ce qu'on peut appeler la musique bretonne.
C'était Donc Zou Nose, tiré de l'album de Roland Baker, Musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle, sorti chez Cobbraise. On écoute justement Roland Baker dans sa quatrième partie d'interview pour Celtar Morik. Est-ce qu'on pourrait remonter plus loin dans le temps pour retrouver de la musique bretonne ?
Bah, j'aimerais bien. Mais pour le moment, là, on est avec le manuscrit le plus ancien et le plus important aussi de collectage de musique instrumentale. Bien plus tard, 100 ans plus tard, à la fin du 19e siècle, on a beaucoup de collectage de chansons. Il y a beaucoup de paroles. L'homme à il n'a pas noté les textes des chansons, lui, il a noté que les musiques. Mais à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a eu beaucoup de prêtres, comme Mahé d'ailleurs, qui était prêtre, qui ont noté des airs de chansons. D'ailleurs, on peut saluer le travail de mon ami Dédelmeut, qui fait un gros boulot d'archivage de tous ces manuscrits qu'on retrouve à la fin du 19e siècle, qui reprennent les chansons populaires, particulièrement du Morbihan, du Pays de Vannes, du Bourgeonnette.
Qu'est-ce qu'on retrouve comme instrument justement pour cet album, pour celui qui le découvre ?
Alors l'idée, c'était d'essayer de jouer les airs de Mahé avec les ambiances de l'époque, en se disant, mais on ne peut pas jouer qu'un piano, un saxophone ou avec des influences du jazz ou l'accordéon. Il faut jouer avec des instruments qui étaient joués à l'époque. Donc des binious des Montmartre, ça c'est sûr. Mais pas des binious des Montmartre comme on connaît aujourd'hui. Souvent des instruments plus grands, plus gros, plus graves. Qui rappellent d'ailleurs aussi les instruments de la période ancienne, baroque, médiévale. On a une bombarde en 1960, là tout dernièrement. Dernièrement, ça fait 60 ans. On a retrouvé une bombarde qui est pratiquement deux fois plus longue qu'une bombarde ordinaire qu'on voit dans les bagadous aujourd'hui. Une bombarde qui fait 50 cm au moins. On l'a retrouvée à Saint-Avé, cette bombarde. Et quand on l'observe, qu'on essaye de jouer avec cet instrument, on comprend très vite que là, on est dans une autre époque. On est dans un hautbois, une bombarde qui est plus proche de la musique baroque que de la bombarde qu'on connaît aujourd'hui, qui est jouée par les bagadous.
Après, il faut retranscrire le son d'époque. Hein. Ça peut être trop dur, ça aussi.
Alors, ça, c'est compliqué. Alors là, moi, je passe la main à un moment, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout. Et là, moi, je confie ça à des gens qui en font leur métier, qui sont facteurs d'instruments. Donc, on a deux facteurs d'instruments tip-top dans le Morbihan. C'est Georges Botua, qui est associé avec Tudual Hervieux. Ils sont installés à Rieux. Georges Botua a longtemps été à Auray. Maintenant, il est associé avec Tudual Hervieux à Rieux. Et ces gens-là, vraiment, ont fait un vrai travail sur ces instruments-là et savent de quoi ils parlent. Donc on a fait des copies d'instruments anciens, dont la bombarde de Saint-Avé, avec laquelle on joue dans le disque. Il y a aussi, bien sûr, pas que des bombardes, il y a aussi la veuse, qui est particulièrement jouée depuis le XXe siècle dans le pays de Nantes. C'est un gros biniou, on va dire, grave aussi, du coup, et qui a été jouée partout en Bretagne au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a aussi les cordes, les violons particulièrement. Il y a le violoncelle, puis les percussions, les tambours de différentes tonalités, les fifres, les flutios, les flawits, tous ces instruments, en fait, on retrouve leur nom, en fait, dans les textes de l'époque.
Thank you. C'était Fest Herveline, la fête dans le moulin, et c'était évidemment Roland Baker avec son album Musique Bretonne aux confins du XVIIIe siècle. On l'écoute en dernière partie d'interview au micro de Saltar Moric. On t'a pas traité de fou quand tu as mis en place ce projet ?
Bon, ça fait longtemps qu'on doit me traiter de fou, je pense. En fait, c'est un gros boulot d'enquête, en fait. C'est une enquête. C'est une enquête, on peut appeler ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que la question, c'est de se dire, voilà, Maï, il a collecté ces airs-là aux confins du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il a pu entendre sur le port de Vannes en, je dis n'importe quoi, en 1798 ? Qu'est-ce qu'il a pu entendre ? Qu'est-ce qu'il a pu entendre ? Ben, il a entendu des gens qui chantaient, des instruments de musique, et des gens qui étaient sur les pontons, sur le port, des prostituées, des taverniers qui chantaient à tue-tête dans leur taverne. Ça devait quand même grouiller pas mal sur le port de Vannes en 1792 ou plus tard. Et donc c'est ça que j'avais envie de faire, recréer la vie de tout ça. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on n'a même pas une rue Joseph Mahé. En venant à Vannes aujourd'hui, je me disais, tiens, il faut que je retourne voir les élus de la ville de Vannes pour essayer de leur dire, ben, ça serait quand même bien, c'est quelqu'un d'important. D'autant plus qu'en plus d'être important, collecteur important, en plus d'être important sur le plan de l'érudition, c'est-à-dire que ce gars-là, en 1802, il s'est retrouvé professeur au lycée Saint-Yves, qui maintenant est le collège Jules Simon. Il s'est retrouvé bibliothécaire, premier bibliothécaire de la ville de Vannes. Il s'est retrouvé aussi chanoine à la cathédrale de Vannes. C'est le super grade des prêtres en retraite. C'est un petit peu ça, je n'ai pas très, très bien compris, parce que ça m'intéresse peu, mais bon, c'était quelqu'un d'important. Le préfet du Morbihan, le comte de Chazelles, on connaît tous le cours Chazelles à Lorient, le comte de Chazelles, qui était préfet à l'époque, lui commande un livre sur le Morbihan. Ben, c'est quelqu'un qui est reconnu et considéré comme l'érudit morbihanais. Donc ce Joseph Mahé, là, j'aimerais bien qu'il y ait une rue Joseph Mahé à Vannes, puisqu'il est de l'île d'Arles.
Finalement, l'histoire est liée pour les deux villes. Hein.
Oui, contrairement à ce qu'on pense. La Compagnie des Indes, c'était les deux villes, c'était pas seulement l'Orient, contrairement à ce qu'on a dit. Hein. Bien sûr, la Bourse était à Vannes. Les Vannetais ont toujours été intéressés par ce côté-là.
Alors, il y a un livret de 92 pages, hein. c'est très visuel également, hein. le CD est très bien présenté. Hein.
Oui, moi c'était mon but en fait de faire pas seulement qu'un disque, c'était de faire un beau livret pour raconter tout ça, mais aussi raconter tout ça avec des images de Perrin. Et quand on se plonge un peu sans même tout lire tout ça tout de suite, on lit bout par petit bout. On rentre encore plus dans la musique, il me semble. On rentre plus dans l'ambiance de tout ça, quoi. Puis bon, les peintures de Perrin, c'est quand même quelque chose de très beau. Je suis très, très fier du livret. Moi, je trouve ça très, très beau. Très fier d'avoir à offrir au public ce bel objet, quoi.
En tout cas, on peut s'imprégner de la musique et des images.
Ouais, moi, je pense que c'est bien d'avoir les deux. Ouais. Si j'avais fait que le disque, j'aurais été beaucoup moins intéressé. Pour moi, ce projet-là, c'est autant le livret que la musique. Ça semble curieux d'entendre ça de la bouche d'un musicien, mais pour moi, c'est l'univers poétique qui compte avant tout.
Ça pourrait donner lieu à une suite ?
Oh, peut-être qu'on va changer un petit peu de crèmerie, parce qu'au bout d'un moment, moi, ça fait 7 ans que je suis là-dessus. C'est pas que j'en ai marre, mais là, j'ai envie de faire des choses, revenir un petit peu à mes amours de musique un petit peu plus actuelles, peut-être. J'en dis pas plus.
On va te revoir sur scène prochainement pour des anciens projets ?
Bah, pour le moment, il n'y a pas de scène, parce que j'étais tellement pris par tout ça que je me suis dit... la sortie de l'album, la sortie d'un livre, c'est déjà beaucoup. 7 ans de travail, donc je me donne, on va dire, 7 mois pour faire connaître ce travail-là. Je fais beaucoup de dédicaces, il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Ça a déjà commencé en flèche au mois d'octobre. Donc novembre, décembre, c'est bien, bien chargé jusqu'aux fêtes de Noël. Et puis à partir du 12 janvier, ça repart. Donc il faut faire sa promo, comme on dit. C'est pas histoire de gagner de l'argent, c'est histoire de se dire, ben voilà, on a fait un travail, on le fait connaître au plus grand nombre. C'est le but aussi. Si on garde ça jalousement chez soi, ça sert à rien. Faut faire connaître. Donc j'ai besoin, moi, de rencontrer les gens. J'étais à Pontivy samedi, j'étais à Quimper les samedis précédents. J'ai participé avec grand plaisir au Salon du Livre à Carhaix le week-end dernier. Ça n'a pas arrêté, là, depuis que le disque et le livre sont sortis. C'est important de rencontrer les gens aussi, et puis de parler avec les gens, puis de répondre aux questions.
On rappelle le titre de ton album, Musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle, d'après le manuscrit de Joseph Mahé et l'œuvre d'Olivier Perrin par Roland Baker. C'était Rastel, qui signifie « au château », et c'était Roland Baker, je vous rappelle le titre de l'album « Musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle » d'après le manuscrit de Joseph Mahé et l'œuvre d'Olivier Perrin. Cet album de Roland Baker est sorti chez Cobrise. Et puis on n'oublie pas, un très bel ouvrage sorti aux éditions Ouest France, et on aura l'occasion d'y revenir prochainement. C'est un livre sur les sœurs Gouedec, une belle histoire très bien racontée. Là aussi, surveillez bien vos ondes et Internet. En savoir plus sur Roland Baker et ses productions, www.oyunmusique.com. Oyunmusique.com.
Même en Belgique, on écoute Celta Armorique.
C'est la fin de cette émission Celta Armorique, consacrée entièrement à Roland Baker. Présentation, préparation, réalisation, interview, reportage et production. Stéphane Coyotte-Blesprat pour votre radio avec Corrigan Productions. Une grosse pensée pour Jacques Pellen, auquel on rendra hommage prochainement dans une autre émission. Jacques Pellen, c'était la Celtic Procession en 1993. C'était un projet offshore avec des super musiciens et puis c'était également une carrière en solo. C'était également le compagnon de l'excellente harpiste Kristen Nogues. Jacques Pellen nous a quittés cette semaine et nous y reviendrons prochainement. Merci à Alain Tatouage pour son aide précieuse. On salue nos collaborateurs également, Steven Gueltas, Gérard Artoussec, Danone, Scalpel, Cara, Seb, Didier de l'excellent média Rythme Croisé et tous ceux qu'on oublie mais qu'on salue. Avant de se quitter, de la bonne lecture. Pour la mer, vous avez Chasse-Marée. Pour le rock, la chanson française, un excellent magazine qui s'appelle Francophone. Autre ouvrage intéressant, surprenant paysage de mer et de légende, L'Orient Bretagne Sud, d'Alexandra Fraisse-Eliazord et de Pierre-Yves Nicolas aux éditions Locus Solus. Une encyclopédie sur l'histoire des paquebots de Saint-Nazaire, près de Nantes, en Bretagne historique, qui nous raconte l'histoire de ces géants des mers de 1862 à 2022. Ouvrage élaboré et écrit par Patrick Ball, sorti aux éditions Cobrise. Et puis Race for Water, l'Odyssée du plastique, aux éditions Favre, d'Éric Loiseau. Cela concerne l'écologie et surtout le plastique que nous déversons dans la mer. Autre ouvrage intéressant, Un monde de musique bretonne de Pascal Lamour aux éditions Ouest France. Et toujours de Pascal Lamour avec des photographies de Pascal de Dessania, Les carnets secrets du druide, La sagesse des hommes, Le pouvoir des esprits aux éditions là aussi Ouest France. On se retrouve pour un nouveau numéro, même endroit, même heure, même site, même radio. Salut et kentatro!